présence,
Seigneur.
Avec moi.
Merci pour ta présence.
Emmanuel est là.
Bien, mais toujours en état debout, toujours dans cette attitude. Je vais demander à ce que tu puisses ouvrir ton livre, ta Bible plutôt, dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Le même passage que nous avons commencé à développer depuis les semaines passées. Il y a deux semaines que le pasteur Camille a commencé à parler de la patience en utilisant ces passages. J'aimerais à ce que nous puissions lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de me tenir devant vous ce matin. Combien je reconnais que je ne suis pas spécial du tout, mais ce n'est que sa grâce qui peut me mettre debout ici devant vous. Je veux aussi remercier le pasteur Camille. Nous sommes au mois de la patience. Si je dois dire merci au pasteur Camille aujourd'hui, je dirais merci pour la patience. Merci pour la patience que vous affichez des fois envers nous, face à notre lenteur à comprendre certaines choses, face à notre lenteur à nous adapter à certaines choses. Merci beaucoup. Merci aussi pour les risques que vous prenez de nous plonger dans l'eau. D'habitude, je ne commence pas mon message en remerciant ma femme. Je me dis, les autres prédicateurs remercient leur femme. Pourquoi moi, je ne remercie pas ma femme? Aujourd'hui, quand je priais, il m'est arrivé de penser à elle. Et j'ai juste réalisé une chose, que lorsque je la regarde, je réalise toujours une chose, que Dieu m'aime beaucoup. Lorsque je vois ce qu'elle est, les qualités qu'elle a, son caractère, j'ai dit, quand je passe par des moments difficiles et que je me demande où est Dieu, je peux regarder de ce côté-là et je dis, il m'aime. Je dis merci à Dieu pour ma femme. Alors nous parlons de la patience. La patience, c'est une réalité, je peux dire, qui nous accompagne tout au long de notre vie. La patience est là depuis notre conception jusqu'à notre vieillesse. Je peux même dire que la patience va, elle nous accompagne jusque dans les séjours des morts. N'est-ce pas? C'est que l'apôtre Jean est en train de dire dans Apocalypse 6, au verset 10, lorsqu'il parle des âmes qui sont dans les séjours des morts, en train d'attendre, il pose la question en disant, finalement, jusqu'à quand tarderas-tu pour nous venger? Donc la patience, c'est une réalité que nous ne pouvons pas échapper dans la vie. La patience. Mais ça fait quelques semaines que nous avons commencé à parler de la patience dans cette église, et les hommes de Dieu qui sont montés ici nous ont parlé de beaucoup de choses, notamment des choses qu'il faut savoir, des choses sur la patience, qu'est-ce qu'est la patience et qu'est-ce que n'est pas la patience. Et je me rappelle le dimanche passé, lorsque le pasteur Camille parlait encore de la patience, il disait que la patience n'est pas la complaisance, ce n'est pas une paresse, la patience. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par là et rappeler ce qui n'est pas la patience en ajoutant quelque chose. Vous savez, la patience n'a pas le sens que nous la prêtons très souvent. J'aimerais dire, la patience n'est pas l'élasisme. La patience n'est pas le fait d'attendre passivement au lieu d'intervenir face à une situation qui mérite à ce que vous puissiez jouer un rôle. Vous savez, beaucoup de parents de nos jours tombent dans l'élasisme ou une tolérance exagérée au nom de la patience, et au point où ils ne jouent plus leur rôle. vous voyez comment est-ce que la femme fait des bêtises, vous n'intervenez plus. Et vous vous dites, je suis patient. Ce n'est pas ça la patience. Une deuxième chose, j'aimerais rajouter en disant que la patience n'est pas aussi l'effet d'attendre tout en s'occupant. Vous savez, si lorsque nous quittons l'église, nous allons rentrer à la maison, normalement, la Rebecca, celle qui nous aide avec les travaux à la maison, le dimanche, elle n'est pas là. Ça veut dire que nous rentrons avec madame et quelquefois j'ai faim. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle prépare. À ce moment-là, pendant qu'elle est en train de préparer, il faut que moi, je puisse patienter. Alors, comment est-ce que je patiente? Je ne vais pas prendre un livre ou allumer la télé et commencer à voir et me dire que je suis en train de patienter. Non, ce n'est pas ça, patienter, au fait. La patience, au fait, les actions de la patience ou les activités de la patience doivent avoir une relation directe ou indirecte avec l'objet de la patience. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait à ce que je patiente lorsque ma femme prépare? Ce que je peux faire, c'est directement, par exemple, lui dire, ok, d'accord, pendant que tu prépares la viande, moi, je t'aide à éplucher les pommes de terre. C'est comme ça que je patiente. Pendant que tu es en train de préparer à une action indirecte, par exemple, je vais empêcher à ce que les enfants viennent te déranger. Je vais occuper les enfants. Afin que tu puisses faire, tu sois expéditif dans ce que tu es en train de faire. C'est ça la patience. Raison pour laquelle la patience est d'ailleurs définie comme la patience, la définition de la patience est définie comme l'attitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Vous voyez que le fait de se maîtriser a une relation directe avec l'attente. La définition poursuit en disant que de rester calme dans une situation de tension ou face à une difficulté. Ou encore, la patience, c'est la qualité de persévérance. Ça veut dire que c'est comme si on nous disait que la patience, c'est la persévérance. Or, bien-aimés, nous ne pouvons pas persévérer dans le football. Nous voulons être footballeurs professionnels. Nous ne pouvons pas persévérer dans le football en investissant le plus de notre temps dans la natation. Ça ne marche pas. Celui qui persévère dans le football doit concentrer le plus gros de son temps dans des exercices qui l'aident à être le meilleur footballeur. Alors la patience n'est pas le fait d'attendre à s'occuper. L'action de celui qui est patient doit cadrer. J'insiste. Si tu es patient en quelque chose, je ne sais pas, tu t'attends en quoi. Mais tu dois te poser la question de savoir, est-ce que l'action que je suis en train de faire cadre avec ce que je suis en train d'attendre? La définition poursuit en disant que la patience à travers le temps, à travers le monde et les croyances, a une qualité essentielle requise, est une qualité essentielle requise pour celui qui aspire à la sagesse. Alors, cet avant-midi, Dieu m'a mis à cœur de parler juste d'un petit thème, le principe de la patience. Le principe de la patience. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est une cause première active. Ou littéralement, le principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose, qui en est la cause première. C'est ce que, lorsqu'on parle du principe de la patience, c'est ce qu'il nous faut savoir, ce qu'il nous faut savoir pour que nous puissions appliquer afin d'être des personnes patientes. Qu'est-ce qui est à l'origine de la patience? Mais voyons d'abord le contexte de ces textes que nous venons de lire. Jacques, auquel est attribué cet épître, la tradition chrétienne l'identifie à Jacques, le frère de Jésus-Christ, qu'au départ, c'est d'abord réservé comme tous les frères de Jésus-Christ à croire à lui, mais plus tard, nous les voyons jouer même un rôle très important dans l'Église. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui dans Actes des Apôtres, il dit qu'il était comme une colonne de l'Église. Il était une colonne de l'Église, Jacques. Mais ce que nous sommes en train de voir dans cette personne des gens, c'est que l'épître qu'il écrit, c'est une circulaire adressé aux 12 tribus dispersées dans le monde, les 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées dans le monde. Elle est construite autour d'un ensemble d'exhortations éthiques et religieuses. Et dans le passage que nous avons lu, nous sommes en train de voir une chose, c'est qu'elle porte un engagement pratique. Tous les livres d'ailleurs portent un engagement pratique sur la vie chrétienne. Ça veut dire que Jacques traite des notions, pas des notions philosophiques, non, il ne donne pas des histoires que nous devons écrire, il donne des histoires que nous devons faire. C'est ce que Jacques est en train de faire dans cet épître. Il se concentre sur ce qui est pratique. Un des passages phares d'ailleurs, au chapitre 2, au verset 17, où il parle de la foi, et il dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Il qualifie une foi sans œuvre comme étant une foi morte. Et les passages que nous venons de lire, ils se concentrent essentiellement sur la patience. Et en parlant de la patience, il parle de l'origine de la patience, c'est ce que je vais donner aujourd'hui, l'origine de la patience ou les principes de la patience, ou ce qui permet à ce que quelqu'un qui aspire à la patience puisse faire ou puisse comprendre afin de voir la patience être son partage. Mais lorsque nous lisons cette partie, nous constatons aussi qu'il nous parle des œuvres de la patience. Et c'est ce que le pasteur Camille et le pasteur André d'ailleurs avaient développé les semaines passées, le pasteur André aux études bibliques, lorsqu'il parle des œuvres de la patience. Mais à la fin, vous constatez qu'il parle de la conséquence de la patience qui est la perfection. Lorsque vous appliquez, lorsque les œuvres de la patience s'appliquent en vous. Alors, le premier principe que je vais nous donner aujourd'hui, il y en a deux. Dans ces passages, en tout cas, il y en a deux. Il est possible que dans ces cultes, je puisse parler que d'un seul principe. Et je vais parler de l'autre principe, de tous les deux principes au troisième culte. Mais le premier principe que Jacques nous enseigne dans ces passages, c'est qu'il nous dit que nous devons avoir une perception positive de l'épreuve. Celui qui veut être patient, celle qui veut être patiente, doit avoir une perception positive de l'épreuve. Alors Jacques est en train de nous dire que nous devons arrêter de voir l'épreuve comme quelque chose de négatif. Nous devons arrêter de voir l'épreuve comme quelque chose que personne ne désire que ça ne puisse lui arriver. Nous devons changer notre vision de l'épreuve. Nous devons changer notre considération de l'épreuve. Écoutez ce qu'il est en train de dire au verset des dix. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. La version second 21 dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc il nous dit, l'épreuve ne doit pas être un sujet d'amertume. Nous devons arrêter de considérer l'épreuve de cette façon-là. Bien aimé, vous avez qu'à constater comment est-ce que les étudiants, lorsqu'on annonce qu'il y a examen ou interrogation, comment est-ce qu'ils se comportent. Vous pouvez voir comment est-ce qu'ils stressent. Vous pouvez voir comment est-ce que certains sont tout tremblants. Pas de fièvre, mais à cause de l'épreuve. Et il arrive des fois, lorsque l'enseignant dit, voilà, on n'aura plus interrogation, j'ai décidé d'annuler l'interrogation, oh, c'est la célébration. On célèbre parce que l'enseignant vient de dire que l'épreuve qu'on devait avoir, je viens de l'annuler. Vous voyez combien nous ne comprenons pas l'importance de l'épreuve. L'épreuve devait plutôt être considérée comme quelque chose, comme une opportunité pour toi de prouver à l'enseignant que tu as compris son cours et que tu es prêt à passer dans la classe supérieure. L'épreuve devait être considérée comme une opportunité pour toi de te prouver à toi-même que ce cours, je le maîtrise. Ça veut dire que si on me lance dans le marché du travail, je peux bien me défendre parce que j'ai compris ces cours. L'épreuve te permet à comprendre ces choses-là. Mais nous ne comprenons pas cela. Lorsque l'épreuve vient, Nous considérons l'épreuve comme quelque chose d'indésirable. Personne, personne ne veut s'affronter à l'épreuve. Mais dans notre pays, il y a aussi plusieurs réalités. Il y a des enseignants qui utilisent maintenant l'épreuve pour faire du chantage aux étudiants et aux élèves. C'est l'occasion pour l'enseignant de serrer de vis quelque part. C'est l'occasion pour l'enseignant pour profiter d'une sœur, d'une fille. Et très souvent, ce que j'ai constaté malheureusement dans notre système éducatif, c'est que certains enseignants pensent que lorsque mon cours est difficile, lorsque beaucoup d'élèves se plaignent de mon cours, ça veut dire que je suis fort. Ce que nous ne comprenons pas, enseignants, je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, en tout cas pardonnez-moi, c'est que certains enseignants ne comprennent pas, je ne dis pas tous les enseignants, c'est que lorsque les élèves échouent à ton cours, ça veut dire, entre guillemets, que tu ne sais pas enseigner. Ça veut dire que tu... Parce que, écoutez, un enseignant devait être considéré comme un coach de football. Dans une équipe de football, c'est qui le meilleur coach? N'est-ce pas les coachs qui amènent l'équipe à la victoire? Maintenant, lorsqu'il y a un enseignant, que lorsque les élèves ont échoué, tu penses que je suis le meilleur enseignant, mon cours est difficile. C'est que l'enseignant lui-même ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est que moi-même, lorsque les élèves ont échoué, ça veut dire que j'ai échoué. J'ai échoué parce que j'ai été incapable de bien enseigner. Je me rappelle à l'école primaire, je ne sais pas si ça continue à exister, il y avait un cours qu'on appelait problème. Oh, que Dieu pardonne la personne qui avait pensé à ce nom. Ce cours, c'était un cours, au fait, qui vous aidait juste à résoudre certaines équations. On donne des équations, par exemple, papa a 5 bananes, il en a donné 3 à tel, et a gardé une banane telle part, il en a donné combien de bananes il reste au papa. Alors, vous imaginez, et vous devez trouver des solutions. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé ces cours la solution. Pourquoi problème? Alors, à chaque fois qu'on annonçait ces cours, moi, l'enseignant vient, il dit, vous savez, demain nous aurons des exercices de problèmes. Moi, dans ma tête, ça sonnait, demain vous aurez des problèmes. Alors, bien-aimé, je vais vous dire que je ne sais pas aujourd'hui comment est-ce que ça évolue à l'école primaire, et lorsque vous échouez ces cours, vous aviez des problèmes. Il y a un homme dans la Bible qui m'impressionne beaucoup, c'est David. Au chapitre 26 de Psaume, la Bible parle de David. Comment est-ce qu'il considère? David avait tellement une perception positive de l'épreuve que il arrivait à David lui-même de demander l'épreuve à Dieu. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creux mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant moi et devant mes yeux, et je marche dans la vérité. David demande lui-même l'épreuve. Combien parmi nous ont l'habitude de demander l'épreuve ici? Je me rappelle un jour, j'avais prêché sur des brisements, j'ai dit, il faut que nous apprenions à demander au Seigneur de nous briser. Un homme de Dieu est venu, il dit, toi tu ne sais pas ce que tu demandes, moi je ne demanderai jamais à ce que Dieu puisse me briser. Bien aimé, malheureusement, il le fera. Il le fera. Il le fera. Alors je vais essayer un peu d'illustrer comment est-ce que nous devons considérer l'épreuve dans la façon de Dieu de les regarder. Vous, Dieu est comme un fabricant de véhicules. Il dit, je vais fabriquer un véhicule qui soit capable de percer tout le mur que les gens peuvent mettre devant moi. Et il va dans son garage, il fabrique le véhicule. Lorsqu'il a fini, le véhicule est là, considérant que le véhicule est une personne. Et il ne dit rien au véhicule. Et il dit juste, ok, d'accord. Les gens pouvaient venir commencer à construire des murs. Les gens viennent construire des murs à béton, des murs à bois, des murs, toutes sortes de murs, quoi. Et Dieu va prendre son véhicule. Il fonce dans le mur. Lorsqu'il fonce dans le mur, les gens voient le véhicule, disent oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Il veut le détruire, il veut le détruire. Non, ce n'est pas pour détruire les véhicules. Il veut prouver qu'il a développé le véhicule. Il prend encore son véhicule. Les slides peuvent me suivre, s'il vous plaît. Il prend encore le véhicule. Il fonce sur un autre mur. Et les gens se disent, oh, 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 oh. Il cherche à réduire à néant ses véhicules. Non, Dieu ne cherche pas à réduire à néant ses véhicules. Il ne cherche pas à réduire à néant ses véhicules. Il cherche juste à démontrer que le véhicule est renforcé. Et les gens sont là, ils disent, ok, d'accord, il n'a pas réduit à néant quand même. Il prend encore les véhicules, il fonce cette fois-ci dans un mur à béton. Oh, cette fois-ci, il veut l'écraser. Mais écoutez, il ne veut pas l'écraser. Il veut juste exposer le véhicule pour montrer le chef-d'œuvre qu'il a eu à faire. Les amis des médias, je vais demander à ce que vous soyez concentrés, s'il vous plaît. Alors, je vais donner trois autres causes de preuve. Trois causes que j'ai découvertes, il y en a plusieurs. Mais ces trois causes m'ont beaucoup béni. Premièrement, le preuve de Dieu n'est pas comme le preuve des hommes. Vous savez, le preuve de Dieu n'est pas comme les hommes, les preuves des hommes. Lorsque les hommes viennent nous éprouver, ils cherchent à ce que nous puissions prouver que nous méritons un poste quelconque, que nous méritons ce qu'ils veulent nous confier comme responsabilité. C'est ça lorsque les hommes nous éprouvent. Mais lorsque Dieu nous éprouve, il nous éprouve pas parce qu'il faut que nous puissions nous qualifier. Dieu nous éprouve parce qu'il nous a qualifiés. Bien-aimés, n'est-ce pas ce que nous voyons dans Jean 15 au verset 2? Il dit que je suis, nous allons lire ces passages, Jean 15 verset 2, il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout serment qui est en moi qui porte des fruits, il est monte. Dieu émonte le serment pas pour que le serment puisse porter du fruit. Il émonte le serment parce que le serment porte du fruit. N'est-ce pas ce que nous voyons aussi avec Job? Dieu, il sait que Job est intègre. Il sait que Job est juste. Il va même voir les diables et lui dit, tu vois Job, il n'y a pas plus intègre que lui sur la terre. C'est comme s'il voulait dire au diable, lui là, il est l'incarnation sur la terre de la fidélité, ou il est l'incarnation de l'intégrité. Mais c'est Job que Dieu choisit d'éprouver. Bien-aimés, Dieu ne nous éprouve pas pour que nous puissions prouver quelque chose. Dieu nous éprouve parce qu'il nous a qualifiés. Il amène Christ dans les déserts, pas pour que lorsque Christ va sortir du désert, il puisse appeler Christ mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il amène Christ dans les déserts parce qu'il a dit, tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il nous éprouve parce que nous portons des fruits. Il ne nous éprouve pas pour que nous puissions prouver quoi que ce soit. Le preuve de Dieu, c'est comme ce qui arrive à Daniel. Il faut que Dieu l'élève. Il faut que Dieu montre qu'il a investi à Daniel dans Daniel certaines capacités. Mais pour que Daniel sache que Dieu a investi en lui certaines capacités, pour que le peuple de Babylone sache que Dieu a investi à Daniel certaines facultés ou certaines qualités, il fallait que Dieu puisse le prouver. Il ne nous éprouve pas pour que nous puissions porter des fruits, il nous éprouve parce que nous portons des fruits. La deuxième chose, c'est que Dieu nous éprouve aussi pour que nous puissions comprendre le bienfait de placer notre confiance à lui. Écoutez ce qu'il est en train de dire dans Deutéronome 8 au verset 3. Il dit, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël lorsqu'il veut l'entrée à Canaan. Il dit, Moïse, Moïse est en train de dire au peuple, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de père. Afin que de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais un peu parler de ces passages, expliquer le contexte, comment est-ce que nous devons comprendre, nous pouvons comprendre ces passages. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, c'est vrai que le pain peut faire vivre. Si vous mangez du pain, vous pouvez vivre. Mais écoutez, il vous arrivera de manquer du pain. Il vous est d'ailleurs arrivé de manquer du pain. C'est pour ça que je vous ai amené dans les déserts, justement pour que vous puissiez manquer de pain, afin de vous apprendre qu'il y a plus que le pain qui peut faire vivre ma parole. Dieu est en train d'apprendre à Israël que ma parole est consistante et suffisante pour faire vivre. Alors le jour que vous manquez de pain, le jour que vous perdez ce travail, le jour qu'on vous arrache ces contrats, le jour qu'on vous vole tout ce que vous avez, vous n'avez plus rien. Et vous pensez que demain vous allez mourir parce que vous n'avez pas toutes ces choses-là. Il dit, sachez que ma parole, elle est suffisante. Et lorsque la parole de Dieu se manifeste, on se pose juste une question, c'est quoi ça encore? Ce qui nous étonne nous fait vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, le travail que tu as perdu. Papa, les complots qu'ils ont organisés contre toi. Alors que tu as une famille en charge, tu penses, c'est fini pour moi. Il veut juste te faire comprendre que sa parole est suffisante, consistante. Et quand tu places en lui ta confiance, tu as tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, pas tout ce que tu désires, il y a une différence. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. La troisième chose que j'aime avec le bref, c'est que le bref de Dieu nous permet de voir, de vivre le surnaturel. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 12, 10. Il dit, le bref de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Par une patience à toute épreuve. Il continue à dire, par des signes, des prodiges, des miracles. Le bref nous permet d'expérimenter les miracles de Dieu. Écoutez bien aimé, imaginez-vous où je suis là. Imaginez-vous où je suis là. Et que tout le monde ici en bas, on a déplacé tout le monde pour le mettre au balcon. Et que Dieu m'a dit, tu sais, tu peux sauter de là jusqu'à là. Je vais me dire, non, 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 c'est impossible. Il me dit, oui, tu peux sauter de là jusqu'à là. Pour que je saute, vous savez qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut juste demander à ce qu'on puisse introduire un lion dans la salle. Je vous assure, je ne saurais pas comment est-ce que j'ai sauté de là jusqu'à là-haut. En fait, lorsque le prêtre vient, tu découvres les capacités que Dieu a investies à toi. Tu découvres que Dieu t'a donné la capacité de voler. Parce que sauter de là jusque là, je ne pense pas que c'est sauter, ça c'est voler. Raison pour laquelle je comprends ce que la Bible est en train de dire dans Ésaïe 40, 31. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. Dieu a investi en toi une certaine capacité. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu passes peut-être par des moments difficiles. Mais sera difficile de finir. Est-ce que tu peux juste te lever? Je sens dans mon cœur que nous puissions nous lever. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lévons-nous. Ce matin, je vais à ce que nous puissions juste obéir à ce que l'Esprit est en train de faire. Tu es ici en ces lieux, tu as des promesses de Dieu, certainement. Dieu t'a dit des choses. Et pendant un temps, quand tu regardes ta vie, tu réalises que tu es comme Joseph. C'est comme si ta vie évolue au contraire de ce que Dieu t'a donné comme promesse. J'aimerais juste encourager quelqu'un. Fais confiance au principe de Dieu. Fais confiance à Dieu. Je ne sais pas, cette église m'étonne des fois. Des fois, nous sommes là, maman Esther, ça lui arrive souvent, elle monte à la chaire et vient conduire la prière. Et je vois combien est-ce qu'elle insiste à ce que les gens puissent prier. Vous savez, tout ce que je viens de dire ici ne sera pas différent d'une conférence donnée quelque part. Si tu n'apprends pas à prendre ce que tu as écouté et la transformer en prière. Et c'est pour ça que l'église a été faite. Raison pour laquelle il ne dit pas que ma maison sera appelée une maison de parole. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. Bien, mais lorsque nous venons ici le dimanche, c'est pour prier. Tu m'étonnes quand, lorsqu'il faut prier, tu ne pries pas. Tu viens faire quoi ici, s'il te plaît? Nous sommes ici pour prier. J'aimerais juste à ce que tu commences à parler à Dieu. Tu connais ton épreuve, commence à parler à Dieu. Pendant quelques minutes, commence à parler à Dieu. Tu connais ton épreuve. Dieu lui sait que tu ressens. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te dire, écoute, je suis avec toi. Il dit, lorsque tu seras en train de passer par la vallée de Baca, je serai avec toi. Il ne dit pas que tu ne vas pas passer par la vallée de Baca. Tu passeras par là. Mais il te promet d'être avec toi. Et il dit dans Psaume 91, que puisque tu l'aimes, puisqu'il est avec toi, il te délivrera et il te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Un jour.